les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. La radio Principe Actif mène de nombreux ateliers en partenariat avec la mission locale d'Évreux, mais aussi de Verneuil-sur-Avre. Et là, je me retrouve en compagnie d'un groupe hébroïcien. Bonjour Anthony, bonjour Enzo, bonjour Enora. Et bonjour l'invité mystère.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Anthony, tu peux me rappeler le nom du dispositif? C'est bien s'orienter, c'est la base. Merci beaucoup. Vous étiez tous les trois en centre-ville d'Évreux pour interpeller des habitants et des citoyens, mais vous n'étiez pas que tous les trois. Il y avait, on peut penser à eux, à Esther et Nouran qui vous ont accompagnés tous les trois, réaliser un micro-trottoir sur un sujet qui va toucher forcément notre invité mystère avec qui on va passer un peu de temps ensemble et lui poser quelques questions. Vous n'avez pas encore écouté tous les trois le fruit de votre travail. Va-t-il vous satisfaire? Va-t-il vous plaire? Va-t-il vous convenir? On l'écoute et puis je veux bien votre avis en retour, et puis bien sûr l'avis de notre invité mystère un petit peu concerné. On s'écoute tout de suite cette production et ces enregistrements que vous avez réalisés en centre-ville d'Évreux qui ont été montés par l'ami Simon.
Du coup, que pensez-vous de la magie?
Je trouve ça plutôt extraordinaire, enfin ça sort de l'ordinaire. Après, c'est vrai que je m'y connais pas forcément, mais je trouve ça cool.
Bah, c'est plutôt intéressant, c'est surprenant, on va dire. On ne sait pas ce qui se passe, et quand on sait, bah, c'est toujours très intéressant, même essayer de faire des tours.
Bah, moi, je trouve que c'est une source de divertissement qui peut être intéressant, surtout pour les enfants en bas âge, qui peuvent trouver ça... cool, parce que du coup ils connaissent pas, ils ont pas forcément la notion de ce qui se passe et ils y croient vraiment.
Okay. Bah j'ai pas tellement de d'opinion et de je sais pas quoi penser. La magie, bon, peut-être toi.
Bah non, c'est magique, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la magie? Bah la magie c'est quelque chose ouais, c'est du rêve, ouais.
Irréel.
Ouais, irréel.
Ouais.
Voilà, on est trompé d'ailleurs par la magie. Hein, voilà, ok.
Que pensez-vous de la magie?
Je dirais que c'est impressionnant et extraordinaire. Et la magie, bah, c'est magique.
Moi j'aime bien, j'ai appris à en faire, ça peut être sympa.
Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça émerveille. Je pense que c'est un peu fictif. C'est un peu de la technique en soi, la magie. C'est comment dire? C'est un peu unique comme question, mais la magie. Tour de magie, je trouve que c'est difficile surtout. C'est très difficile à cerner. Ça dépend des tours de magie, il y a plusieurs types de tours de magie.
Franchement, moi j'aime bien, je trouve ça assez impressionnant quand même, tout ce qui est magie avec le corps, pas forcément que les cartes, mais par exemple où on fait déplacer le corps humain, enfin le système où ils font déplacer, je trouve ça intéressant quand même.
Pareil, je trouve ça intéressant, et puis même j'ai vu un film qui s'appelle Le Prestige, où il parle des trois principaux... comment ça s'appelle? Attends.
Je sais pas que tu parles.
Les... Une espèce de code de la magie où t'as trois... je sais plus quoi, mais le film m'a intéressé, ça parlait de la magie, du coup bah c'est comme ça que je me suis intéressé, etc.
Moi quand la magie je pense à Eric Antoine.
Quel objet, accessoire et vêtement qui incarne cet art?
Le foulard rouge.
Ah, quel objet accessoire ou vêtement. Une cape noire. une petite mallette avec plein de petites choses à l'intérieur pour faire des tours de magie. Une baguette. Voilà.
Ah oui, moi j'ai répondu aussi.
En même temps, c'est à peu près la même chose pour les deux.
C'est surtout le chapeau avec le lapin quand on le sort. C'est très connu. Après, moi, sinon, il y a aussi le bâton de magie pour lancer des sorts, si on veut.
Il y a aussi des petits costumes avec des petites capes, des fois aussi, la petite tenue, le petit maquillage qui va avec, quoi. Voilà.
D'accord.
Quel objet ? Un chapeau noir ? Costume noir ? Ouais, costume, chapeau noir.
Quel objet, accessoire et vêtement incarne cet art ?
Moi, étant faisant du jeu de cartes, je dirais plutôt les cartes. Les cartes, après, je sais que dans l'imaginaire, il y a beaucoup le chapeau, la cape, tout ça, voilà, mais...
Je les vois en costard. En costard, élégant, un peu unique dans leur façon de s'habiller. Quand on voit un magicien, on pense à la cravate, façon un peu élégante de s'habiller.
Oh, souvent le grand chapeau où il fait apparaître le lapin, une grande baguette, souvent le vêtement noir assez sombre et souvent une espèce de manteau comme un short costume, assez lent, peut-être à peu près jusqu'au tibia à peu près.
Moi je dirais les animaux comme le lapin ou l'oiseau, les objets où on peut cacher des gens, etc. Et pareil le chapeau aussi.
Je dirais le chapeau, objet en. Souvent comme c'est pas des vrais animaux, je vais dire un lapin en peluche. Après je vais dire une cape et une baguette.
Le chapeau je dirais.
Si vous-même vous étiez magicien, avec tous les pouvoirs, que feriez-vous?
Ah là là, j'en ferais des choses avec les pouvoirs. Si j'avais le pouvoir de changer des choses, j'aimerais bien changer plein de choses. Hein. Changer plus de l'aspect égoïste, l'aspect pas le côté asocial de certaines personnes. J'aimerais que tout le monde vive en paix, heureux et qu'on soit plus dans l'empathie. Voilà.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Non.
Hein. Ça, bah oui, hein.
Parce que tout le monde l'est pas, c'est pas vrai.
C'est ce qu'on voudrait, mais bon.
Ouais. Ok.
Je sais pas trop. Je ne saurais pas comme ça dire. J'avoue, je pourrais pas dire.
Très bonne question. Je sais pas vraiment. Pourquoi pas faire apparaître des choses ou impressionner les gens. J'aimerais bien. Ça pourrait être sympa.
Moi je pense que je me téléporterai tout le temps partout. Hein. Ça peut être cool. Plus besoin de voitures, de marchés.
Oui, bah oui.
C'est cool.
C'est vrai que c'est très efficace surtout.
Ah oui.
Et si vous-même vous étiez magicien ou magicienne, avec tous les pouvoirs, que feriez-vous?
Je ferais apparaître un lapin blanc. C'est le cliché, mais ouais, je ferais ça.
Tous les pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir fictif ou magicien?
Tout ce que vous voulez.
Tout ce que je veux.
Un pouvoir imaginable, bien sûr. C'est ce que je veux. Pouvoir voler ou me téléporter.
Je sais pas, disparaître, faire apparaître une personne, je sais pas, à l'autre bout de la scène. Ça serait marrant de voir, par exemple, aller sur la place des Breux, et là on tourne la tête et on le voit au haut du clocher. Et puis c'est quand même assez impressionnant, quoi. On se dit, là un tour de passe-passe, c'est pas aussi possible avec une grande distance et une grande hauteur.
Pareil, me faire téléporter ou me faire cloner ou quelque chose comme ça.
En vrai, ça dépend les moments. Soit je me téléporterai, soit j'irai plus vite. Après, j'ai pas d'autres idées.
Des billets.
Changer le monde pour qu'il soit plus tolérant et beaucoup plus joyeux. J'enlèverai les guerres. Et ça, c'est plus de la magie.
Bon, à chaud là, vous venez de découvrir le fruit de votre travail, Anthony, Enzo et Nora. Intéressant.
Oui, oui.
Chouette. Alors il y a bien sûr quelques idées préconçues et quelques préjugés qui se baladent, mais on a aussi entendu des choses originales et rigolotes. Déjà, est-ce que vous trouvez ça intéressant à l'écouter ainsi? Vous qui avez mené l'action, là vous écoutez le résultat.
Bah oui, parce qu'en fait on se réécoute et il y a eu un changement comparé au début et à la fin.
Pas pareil. Enzo?
Bah c'est bien, on découvre ce qu'on a fait.
Ouais. Bah vous avez tous bien bossé, hein. J'ai plus de 11 ou 12 personnes qui ont pris le temps de répondre, des gens différents, vous avez un peu conseillé la chose.
D'un point de vue social, on voit tout ce qui se rassemble et en même temps qui diverge en soi. Ouais.
Ah, il y avait des gens différents.
Oui. Voilà,
avec des avis un peu tranchés, des raccourcis, mais en même temps des choses légères et rigolotes. Moi, j'ai un petit garçon qui est, je crois que c'est un petit garçon qui dit la magie, c'est magique.
Ah ouais.
Normal. Ah, en même temps, c'est trop mignon. Bah, c'est vrai. À un moment donné, pareil aussi, quelqu'un qui dit « Ouais, moi je trouve que ça peut être cool pour les petits-enfants et tout. » Eh, mais moi, je me dis que c'est pour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Anthony, c'est pour tout le monde, imaginons.
Bah, bien sûr.
Bah, grave. Enzo, t'es sensible à ça ou pas, toi?
Moi, y a pas d'âge.
Bah, ouais. On aura. T'es converti, toi. Ouais. Un peu toi qui as choisi le sujet. D'ailleurs, notre invité avant qu'il se présente, qu'est-ce qu'il pense de ce micro-trottoir? Est-ce que quand il parle avec des gens, c'est un peu les idées qui ressortent?
Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées dans ce micro-trottoir. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, effectivement, la magie, c'est pour les enfants en bas âge. C'est le mot qu'elle a sorti. Pas du tout. Les enfants en bas âge, ils comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas le temps d'assimiler, c'est beaucoup trop jeune. On peut faire à partir de 5 ans, mais pour moi, en bas âge, c'est en dessous de 5 ans, et enfin, ça capte pas très bien ce qui se passe. Et oui, la magie, effectivement, c'est pour tout le monde. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup, à écouter, on entend un panel d'âges différents. Ça va des plus jeunes aux plus anciens. Et pour le coup, étonnamment, tous disent qu'ils aiment la magie. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient influencés ou pas par le micro ou pas. Parce que ces derniers temps, avec mes collègues magiciens, on a souvent remarqué qu'il y a deux, soit les gens ils adorent énormément, soit certains jeunes ils ont tendance à trouver ça un petit peu vieux jeu, un peu désuet, un peu par le passé. Mais ça commence à revenir de plus en plus grâce au cinéma. Pour le coup, on a de la chance d'avoir des films qui sortent au cinéma, comme Insaisissable ou comme À la Cité The Prestige, qui sont d'excellents films parce que aussi nous, les magiciens, on travaille sur ces films-là. Alors pas moi personnellement, j'aimerais bien, mais on n'y est pas encore. Mais ils font appel notamment par exemple à David Copperfield pour les Insaisissables. Et ce qui fait que même s'il y a de la magie avec les effets spéciaux, ils améliorent un peu le côté réel de la chose. Le sujet qu'ils traitent et la manière dont ils en parlent est vraiment bien représenté. À la tenue du magicien, ça m'a fait un peu rigoler pour le coup, honnêtement. Aujourd'hui, les magiciens, on a tous des tenues très différentes et surtout des tenues atypiques. L'objectif pour être un bon magicien, c'est d'avoir un bon personnage. Et pour avoir un bon personnage, il faut savoir sortir du lot, donc avoir une tenue, quelque chose qui dénote. Hein, effectivement, à l'époque, dans les années 1800-1900, on était effectivement sur le costard, le chapeau, la baguette, le lapin à faire apparaître. Aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'animaux en spectacle de magie, on évite de plus en plus. Et effectivement, des fois, on remplace les lapins par des lapins en peluche quand on fait de la magie pour enfants, par exemple. Voilà, moi, honnêtement, sur scène, effectivement, j'ai un style un peu plus Peaky Blinders avec un long manteau, avec un petit costard en dessous. J'essaye de rajouter des éléments qui me représentent, genre des clés que j'aurai sur moi avec mes initiales. Et un petit côté un peu dans l'univers de Tim Burton. Personnellement, moi, c'est ce que je m'approprie. Mais voilà, c'était vachement intéressant. Après, beaucoup de synonymes, hein, pour le coup, merveilleux, magique, assez répétitif dans l'ensemble, parce qu'ils savent pas trop. Mais c'est ça la magie, c'est du mystère. On sait pas trop comment le décrire parce que c'est indescriptible en quelque sorte. Ouais.
Vous l'avez compris, le monsieur, il est magicien. Et on a le plaisir de recevoir Emilius Magerium. Voilà, c'est là aussi Enora, hein, qui a joué un peu des coudes. Bon, elle n'a pas eu trop à forcer auprès de nous. Sujet qui nous semblait très pertinent et intéressant, qu'on avait encore que peu évoqué sur notre antenne. Et de ce fait, bah, on va laisser le soin à Enora, justement, de lui écrire, plutôt de lui poser quelques questions qu'elle a écrites. Même si on doit dire la vérité, elle a fait la 99% de l'interview. On s'est permis avec Anthony et Enzo de rajouter une bricole ou deux, mais on la laisse faire et voilà, passez un bon moment. On est en compagnie d'un vrai magicien, donc c'est cool, on va en profiter.
Donc Emilius, comment t'es venu ton nom de magicien?
Alors c'est tout un grand parcours, parce que le nom, pour trouver un bon nom de magicien, c'est pas facile. Quand j'ai commencé la magie, j'avais 11 ans, j'ai appris la magie grâce à un professeur de magie qui enseignait tout. Et une seconde, on rapproche le micro, voilà. Effectivement, du coup, je m'étais appelé John Magic, mais c'est compliqué quand on est enfant de trouver un bon nom. J'avais fini par revenir par mon prénom personnel parce que je trouvais pas quelque chose qui était flagrant. Et puis c'est pendant que le Covid est arrivé que j'ai vu le film de l'apprenti sorcière, un très très vieux Disney, où dedans il y a un personnage qui s'appelle Emilius Brown, qui est un magicien charlatan. Et j'ai beaucoup aimé le prénom Emilius. Alors moi je l'ai un peu francisé, j'ai rajouté l'accent qui n'est pas dans la version anglaise bien évidemment. Et puis c'est de là qu'est parti Emilius. Alors au début je comptais m'appeler seulement Emilius, pas avoir le magérium. Mais quand des journalistes ont commencé à écrire mon vrai nom de famille dans les articles, parce qu'ils voulaient à tout prix naturellement devoir mettre un nom de famille, bah j'ai cherché quelque chose qui sonnait un peu machine, magique, imaginaire. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le merveilleux magasin de Monsieur Magorium, et en fait quand ça finit en yum, j'aime bien parce que ça invoque l'imaginaire. Et du coup j'ai mélangé un peu magie, mage, et ça donne Magérium. Voilà.
Merci.
Tu as dit que tu as commencé la magie à 11 ans. Tu as commencé à t'y intéresser ou tu as vraiment commencé à pratiquer?
Alors en toute honnêteté, j'ai même commencé à m'y intéresser quand j'avais 7 ans. Et je ne m'en rappellerai pas si on n'avait pas des vieilles VHS qu'on a reconverties pour pouvoir les revoir aujourd'hui, où je faisais déjà un tour de cartes avec les vieilles boîtes de magie que mon père il avait à mes copains de classe, à mes anniversaires. Et puis après, il y avait des cours de magie à Saint-Sébastien avec la EPL Sentier. C'était un petit peu onéreux à l'époque pour mes parents, donc ils ont mis un peu de côté. Puis bah, après, la première année de cours est partie, puis j'ai fait ça pendant 10 ans avec Patrick Gess, qui était mon mentor. Et puis bah, après, par la suite, c'est moi qui a commencé à donner des cours de magie à l'EPL Sentier. Voilà.
Et il y a eu un petit déclic qui t'a donné une envie de t'intéresser à la magie ou c'est venu comme ça?
Bah déclic, je sais pas, après c'est comme tous les enfants, j'étais fan à fond d'Harry Potter quand c'est sorti, pour le coup, parce que les cartes que j'utilisais quand j'avais 7 ans pour faire les premiers tours de magie, c'était un jeu de cartes Harry Potter. Mon père avait la boîte de magie Atlas, parce que c'était une entreprise locale, si je dis pas de bêtises, Atlas. Ils avaient fait leur boîte de magie avec des classeurs, il avait un classeur avec 2-3 accessoires, et en fait c'est parti de là, j'ai commencé à regarder, à travailler, et j'en ai fait 2-3, hein, c'était tout, hein, j'aimais bien faire, mais c'était pas spécialement mon objectif de vie. Au début, je voulais travailler dans les effets spéciaux dans le cinéma, même si il y a toujours un lien parce que ce serait les effets spéciaux physiques. Et au final, je me suis dit non, je vais me lancer à fond dans ce que j'aime faire, la magie, et puis voilà.
Et est-ce que tu continues à te former? Est-ce que tu as besoin de performer tes tours de magie et d'apprendre de nouvelles choses constamment ou pas?
Il faut, c'est important, il faut se tenir à la page parce que la magie évolue sans cesse. On a chaque année une quantité de nouveaux tours de magie qui sortent, plus ou moins impressionnants. Il faut au minimum s'informer de ce qui se fait parce qu'après la magie c'est assez onéreux, donc on n'a pas forcément les moyens d'acheter le dernier tour de magie qui coûte. Mais par contre, en effet, oui, il faut rester s'informer de ce qui se fait et il faut continuer à concevoir. Là, je travaille encore sur mes grandes illusions, j'améliore constamment les textes, la mise en scène. J'ai d'autres projets de grandes illusions que j'aimerais construire également. Les techniques restent les mêmes. C'est toujours la même base, il y a des techniques de base, et quand on les sait, on est capable de plus ou moins tout faire. Après, il faut savoir comment les amener.
Ça veut dire que, Emilius, j'imagine que tu crées tes propres tours, on va y revenir, hein. C'est une question énorme que je ne voudrais pas piquer maintenant, mais quand tu évoques quand il y a des tours tout frais, tout récents, qui coûtent très cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent des tours de magie et qui potentiellement, c'est une marque déposée, peuvent le revendre et on a le droit d'acheter le tour de magie de l'autre. Alors, comment ça se passe dans le monde,
alors,
en fait?
Exactement. Il y a des fabricants qui existent, qui sont souvent des magiciens, enfin qui performent aussi de leur côté, qui ont monté leur boîte et qui conçoivent des tours de magie, seuls ou accompagnés. Et effectivement, quand ils vendent un produit, on l'achète entre guillemets clé en main. Ça veut dire qu'on, c'est pour ça que d'ailleurs que c'est assez onéreux la magie, parce que on paye la conception du tour, le matériel, on paye le secret. Et effectivement, du coup, aussi le droit de pouvoir le reproduire, entre guillemets, ça dépend des magiciens, mais des fois il y en a qui le vendent, on a le droit de reproduire plus ou moins l'identique. J'ai acheté un numéro d'un magicien qui est une corde rallonge électrique qu'on peut déplacer et qu'on ouvre, et en fait, lui, il vend carrément le tour avec sa propre musique qu'il a écrite pour son numéro à lui. Donc on a le droit de réutiliser sa musique. Après, c'est pas l'objectif. Souvent, quand on achète un tour de magie, l'idée c'est de se le réapproprier pour le faire soi-même, pour donner son image, amener son personnage dessus. L'idée c'est qu'on n'achète pas vraiment. Enfin, moi honnêtement, quand j'achète un tour de magie, j'achète pas un tour de magie, j'achète un accessoire. Mmh. Et l'idée c'est que moi je me réapproprie le tour, et c'est ce que la plupart
des ça il l'autorise. Ça il l'autorise. Si on le détourne
c'est même conseillé. C'est pour arriver à se différencier des autres. Si on fait tous le même tour à l'identique, les spectateurs, quand ils voient un magicien et un autre, ils disent oh, bah ça je m'en fiche, je l'ai déjà vu, enfin je connais. Et alors que quand c'est amené différemment, même si le trucage est le même, derrière l'effet peut être complètement différent.
As-tu une marque de fabrique ?
Alors, une marque de fabrique, j'en ai en trois. Oui. Alors, j'ai sorti, mais ça, j'en ai plus en stock. Il faudrait que je refasse une petite boîte de magie à mon effigie, qui est la Magerium Magic Box. J'en avais fait qu'une vingtaine au début, parce que il faut pouvoir avoir l'investissement pour en faire produire plus. Donc, c'était un ensemble de petits tours de magie. Pour le coup, ce n'étaient pas tous les miens. Il y en avait un ou deux dedans qui était un peu la manière dont moi je le fais. Et l'idée, c'était de faire découvrir un peu la magie, entre guillemets, à bas prix, pour le plus possible du moins, parce qu'avec les marges, c'est toujours compliqué. Sinon, j'ai aussi en marque de fabrique la Magerium Academy, qui est une animation Harry Potter que je fais, où j'apprends aux enfants à faire des sortilèges Harry Potter. Donc tout ça, c'est des petites... Et j'ai aussi le Manoir Magerium, qui est des salles d'escape game que j'aime faire, parce que j'aime faire tout ce qui est aussi animation immersif, où je mets mes accessoires de magie, enfin mes accessoires, mon savoir-faire magique, pour arriver à avoir quelque chose d'immersif. Et en fait, moi je m'appelle Emilius Magerium, j'ai mon entreprise qui s'appelle Art Magic & Co, donc l'art de la magie et compagnie. Et effectivement, l'idée, c'est qu'après, j'ai plusieurs petites branches où je fais plusieurs activités immersives dans l'art du spectacle vivant.
Et as-tu un incontournable ?
Un incontournable. En numéro, tu veux dire ?
En numéro, en événement, peu importe.
Alors, en événement, oui. En événement, j'ai le Couloir des Horreurs, qui est une maison hantée que je fais chaque année depuis maintenant, je ne sais plus, il faudrait calculer, depuis 2012, on est en 2026, ça fait 14 ans. Alors, il y a deux ans, on ne l'a pas fait à cause du Covid, mais ça, c'est un incontournable que je fais chaque année, et on fait plus de 1000 personnes sur cet événement. En tour de magie, un incontournable que j'adore faire, mais que j'ai malheureusement pas encore l'occasion de beaucoup le sortir, c'est l'homme coupé en deux. Où là, c'est moi qui me fais couper en deux à la verticale, à l'horizontale. On sépare les morceaux, on vient me taser pour pouvoir réanimer mon corps. Mais c'est un accessoire de magie qui fait quand même quasiment 3 mètres de long sur 1,40 m de large. Donc en fait, c'est qu'il faut pouvoir le faire dans des théâtres ou des grandes scènes, et souvent c'est pas forcément le cas. Donc, et c'est pour ça que je développe mon spectacle de grande illusion qui devrait sortir l'année prochaine, si tout se passe bien.
Est-ce qu'il y a quand même, dans cet angle-là, un tour que tu adores pratiquer ? Celui-ci, il n'est pas simple, tu adorerais le faire, et là, on entend que tu vas pouvoir le faire, et on te le souhaite plus grandement. Mais celui qui vient tout de suite en tête, alors, qui sait qui match et puis que tu aimes bien faire ?
Celui que j'aime bien faire, c'est le foulard dansant. En fait, je fais un numéro un peu dans le style Mary Poppins. J'ai mon sac à malice qui arrive sur scène en plein milieu, il se déplace tout seul, je l'ouvre et en fait dedans je sors quelques objets improbables et ensuite je sors un foulard et le foulard il re-rentre dans le sac et puis je le ressors et puis je vais le mettre dans une bouteille et puis il se met à danser dans la bouteille et puis ensuite je viens danser avec lui au milieu de la scène. Ça c'est un numéro que j'adore énormément faire parce que tout de suite on a vraiment ce côté magie, illusion et je donne vie à quelque chose et c'est ce côté là que j'aime énormément faire dans ce numéro là, c'est que je donne vie, c'est pas juste je vous présente un truc. Je fais un effet waouh, non, là je donne vie à quelque chose et ça je kiffe énormément. Alors j'aimerais bien l'améliorer encore, mais des accessoires pour l'améliorer, pour qu'il traverse la salle, etc. Ça commence à être un autre level et ça le sera certainement quand le spectacle de Grande Illusion commencera à cartonner.
Et pour toi, est-ce qu'un magicien peut faire un tour de magie avec n'importe quoi ?
On peut faire, alors oui, oui, et c'est le principe de la magie même, c'est que quand on connaît ces techniques, là je vois par exemple qu'il y a une boîte à crayons, je peux prendre un crayon et puis hop, le faire disparaître en une fraction de seconde devant vos yeux, et c'est ce qu'on appelle de l'impromptu, c'est savoir faire de la magie avec des accessoires qu'on a sous la main. Dans la cassette qu'on a entendue tout à l'heure, l'accessoire qui est revenu, c'est le petit foulard rouge. Et c'est pas pour rien, parce que le petit foulard rouge est un grand classique de la magie. On prend le foulard, on le met dans la main, on le fait disparaître, il réapparaît dans la main, ou dans la poche du spectateur, ou dans la main de l'enfant. Et en fait, ça, c'est un des premiers tours de magie qu'on apprend à faire, la disparition et l'apparition de ce petit foulard. En fait, on pourrait le faire avec un mouchoir, on n'est pas obligé d'avoir un foulard de soie, ou avec n'importe quoi. Et effectivement, ça, c'est de l'impromptu. Donc, c'est ce qu'on on peut faire de la magie avec n'importe quoi.
Et il y a un tour qui t'a déjà bluffé ?
Oh oui, oui, oui. Après, c'est des numéros. Enfin, alors, c'est facile d'être bluffé par des tours quand on ne connaît pas encore le secret. Et quand ça arrive en tant que magicien, c'est toujours un plaisir de redécouvrir cette sensation d'émerveillement. Parce que quand on connaît comment ça fonctionne, on est toujours impressionné parce qu'il y a la performance. Mais quand on comprend pas comment ça fonctionne alors qu'on a nous-mêmes les bases en magie, et là on se dit waouh, ils ont réussi à faire quelque chose qui nous épate. Et effectivement, il y a quelques nouveautés ou grandes illusions qui sont aujourd'hui créées, qui commencent à, comme certains magiciens, par exemple Enzo Wine, il fait des tours de magie incroyables. Eric Antoine, on ne voit plus trop en magie pour le coup, plus en animateur maintenant. Mais oui, ça m'arrive toujours, et quand ça arrive, je suis vraiment content.
Et ton personnage, Emilius Magerium, a une ou plusieurs tenues, par exemple ?
J'en ai plusieurs. D'ailleurs, sur le spectacle de Grande Illusion, je vais changer 3 fois de tenue. Donc ma tenue avec ma veste dans les tons un peu gris-bleu, vraiment qui va être la tenue emblématique du personnage. Le pantalon à rigueur dans les thèmes un peu Tim Burton, pour rappeler un peu Beetlejuice, qui est un personnage que j'adore faire également dans la période d'Halloween. Pour avoir ce côté machinerie, magie assez mystère justement. J'ai un manteau marron qui rappelle un peu plus le côté charlatan, un peu plus côté Mary Poppins, etc. Et puis bah, la tenue complète en mode Beetlejuice pour aller à fond dans le côté un peu plus macabre. Et là, dans ces cas-là, je fais des tours justement plus dangereux, comme l'homme coupé en deux, un tour avec des clous, un tour avec un hameçon, justement pour dissocier un peu la partie numéro plus dangereux, la partie un peu plus magie émerveillante, magie visuelle, et la partie un peu participative avec le public.